Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette édition du jeudi 12 janvier 2017. Avec vous, Abdourahmane Dia et Anastasie Toudiech à la une ce soir.
En Côte d'Ivoire, la situation est tendue à Bouaké. La ville attend la venue du ministre de la Défense suite au mouvement d'humeur des soldats.
Le Parlement nigérian aménage une porte de sortie au dirigeant gambien Yahya Jammeh en lui offrant l'asile politique au Nigeria.
Ouverture demain à Bamako du 27e sommet France-Afrique dans un contexte de crise sécuritaire dans le Sahel.
Ici aux États-Unis, le Sénat continue d'interroger les personnes choisies pour constituer l'équipe de Donald Trump.
Avant notre rendez-vous quotidien avec la Cannes et la Minute Écho, place au journal.
Nouveau remous à Bouaké, la grande ville du centre de la Côte d'Ivoire, une semaine après la mutinerie de soldats qui réclamaient des primes et des maisons. Le ministre de la Défense est attendu dans la seconde ville du pays. Idriss Fall a joint à Bouaké Siriki Baro de la radio Al-Bayan, notre radio partenaire en Côte d'Ivoire.
L'atmosphère est assez tendue. Depuis ce matin, quelques soldats mutins sont postés au corridor sud, à l'entrée sud donc de la ville. On les voit parader dans des 4x4 avec des plaques jaunes, c'est-à-dire des immatriculations de l'État de Côte d'Ivoire, des véhicules qu'ils ont pris de force avec certains responsables de l'administration publique ici à Bouaké. Donc ils sont dans ces 4x4, là ils paradent. C'est sûr qu'ils n'ont pas en ce moment affaire à la population, mais toujours est-il qu'il y a cette psychose-là qui est en train de renaître et chacun est un peu méfiant.
Ils ont saccagé la maison d'un haut responsable militaire.
Exactement, il s'agit du commandant des forces terrestres en la personne du général Smaoro Gaussou qui a sa résidence au quartier Kennedy à Bouaké qui a été saccagé dans la nuit d'hier.
Et le ministre de la Défense est attendu demain vendredi à Bouaké.
Et il a promis revenir à Bouaké. Les soldats mutins sont en alerte d'après ce qu'on voit. Ils l'attendent de pied ferme en tout cas.
C'était Siriki Bayo de la radio Al-Bayan.
Au Nigeria, le Parlement a adopté une motion accordant l'asile au président gambien Yahya Jammeh. Mais ce dernier n'a montré aucun signe de vouloir quitter son pays, dit Lidiko.
La motion adoptée par la Chambre basse du Parlement nigérian affirme la volonté des députés d'accorder l'asile au président gambien. Ils ont appelé Jammeh à respecter la volonté du peuple, qui a voté pour le candidat de l'opposition Adama Barrow à l'élection du 1er décembre. Cependant, la mesure adoptée par les députés nigérians n'engage pas le gouvernement d'Abuja. Demain, le président Muhammadu Buhari doit diriger une délégation ouest-africaine à Banjul pour tenter de trouver une solution pacifique à la crise. Le Nigeria a déjà accordé par le passé l'asile à un certain nombre de dirigeants africains, dont l'ancien président du Liberia, Charles Taylor, qui est maintenant en prison.
L'armée nigériane a annoncé hier avoir retrouvé les corps de 16 soldats dans le nord-est du pays, près de 3 mois après une attaque revendiquée par Boko Haram. Les dépouilles ont été découvertes dans une rivière. Le week-end dernier, au moins 5 soldats ont été tués dans une base militaire.
Le 27e sommet Afrique-France 2017 commence ce vendredi 13 janvier 2017 avec la rencontre des ministres des Affaires étrangères. La rencontre des chefs d'État est, elle, prévue pour le samedi 14 janvier. Elle verra la participation d'une trentaine de chefs d'État qui sont attendus à Bamako. Certaines délégations sont déjà sur place. Kassim Traoré.
Bamako, la capitale malienne, est dans la ferveur du 27e sommet Afrique-France. Certaines délégations, pour ne pas dire les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, sont déjà dans la capitale malienne. Ils ouvrent le bal avec la rencontre des ministres des Affaires étrangères ce vendredi 13 janvier 2017. Une rencontre qui doit baliser le terrain afin de faciliter le sommet des chefs d'État qui s'ouvre ce samedi. La journée du vendredi sera consacrée à l'accueil et l'hébergement des chefs d'État, tout comme certains chefs de délégation. Et c'est Robert Mugabe qui est attendu ce jeudi 12 janvier à Bamako. Il sera suivi du président ivoirien et d'autres chefs d'État dans la journée du vendredi. En tout cas, ce 27e sommet Afrique-France risque de battre le record de participation des chefs d'État selon les estimations du protocole de la République du Mali. Car c'est 37 chefs d'État qui sont attendus à Bamako pour ce grand rendez-vous qui doit débuter le samedi à 10h au niveau du Centre international de conférences de Bamako. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Kenya, nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose le gouvernement et les médecins en grève depuis 40 jours. Un tribunal a condamné aujourd'hui 7 représentants syndicaux à 1 mois de prison avec sursis et leur a donné 2 semaines pour reprendre le travail, faute de quoi ils effectueront leur peine. Les médecins ne fléchissent pas, affirmant ne pas craindre la prison.
Les autorités tunisiennes s'entretiendront aujourd'hui avec des représentants libyens pour tenter d'apaiser les tensions dans la région de Ben Gherdan, où des manifestants réclament la libre circulation des marchandises. Le sud-est de la Tunisie vit essentiellement du trafic transfrontalier et la tension y est vive depuis plusieurs mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent à présent, ici aux États-Unis, les auditions se poursuivent au Congrès pour la confirmation des membres de la future administration Trump. Ce matin, le général James Mattis, choisi pour diriger la défense, était face aux sénateurs. Et Bagassi Koura, les questions sur la Russie ont une nouvelle fois dominé les débats.
Sur la Russie, le général Mattis a affiché un message de fermeté propre à rassurer les élus républicains qui s'inquiètent d'une possible complaisance du président élu envers le maître du Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine essaie de casser l'alliance atlantique, a estimé devant le Sénat James Mattis, surnommé « chien enragé ». L'ancien général des Marines soutient la volonté de Donald Trump de renouer le dialogue avec Moscou, mais souligne en même temps que la Russie a choisi d'être un rival stratégique des États-Unis. Selon lui, les États-Unis doivent être capables de s'opposer à la Russie le cas échéant et de se défendre si leurs intérêts sont menacés. Il a aussi estimé que la Chine détruisait la confiance dans ses relations avec ses voisins.
L'administration Obama a déposé une plainte à l'OMC contre la Chine pour des subventions illégales à ses producteurs d'aluminium. Ce genre de mesure a désavantagé l'industrie américaine et contribué à l'excédent mondial d'aluminium, d'acier et dans d'autres secteurs, a affirmé le président Obama dans un communiqué publié aujourd'hui. Cette annonce intervient 8 jours avant la prise de fonction de Donald Trump, qui menace Pékin de représailles douanières, l'accusant de pratiques commerciales malsaines.
La chancelière allemande Angela Merkel lance un appel aux dirigeants européens pour qu'ils restent unis face à la perspective des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Les 27 autres pays de l'Union s'opposent à ce que Londres puisse avoir libre accès au marché européen s'ils ne respectent pas le principe de libre circulation des personnes.
Un premier appareil Airbus qui fait partie d'une commande de 100 avions est arrivé aujourd'hui à la mi-journée à l'aéroport de Téhéran. Il s'agit d'un appareil A321 qui sera utilisé pour les vols intérieurs. C'est le premier Airbus neuf acheté par l'Iran depuis 23 ans. L'accord nucléaire conclu en juillet 2015 avec les grandes puissances occidentales a permis la levée d'une partie des sanctions internationales imposées à l'Iran.
Session parlementaire très tendue en Turquie aujourd'hui. Les députés en sont venus aux mains ce matin lors de l'adoption par le Parlement de 3 articles du projet de réforme constitutionnelle visant à étendre les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. L'opposition turque dénonce une dérive autoritaire du président Erdogan.
La justice française a ordonné aujourd'hui la remise en liberté de l'ancien chef rebelle kosovar Ramush Haradinaj. Il avait été arrêté la semaine dernière à la demande de la Serbie. Il est toutefois placé sous contrôle judiciaire pour qu'il reste en France en attendant la suite de la procédure. Les Serbes qui demandent son extradition le soupçonnent de crimes de guerre commis sur des civils durant la rébellion contre les forces de Belgrade entre 1998 et 1999.
Voilà pour le journal Anastasie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Faisons un point sur l'actualité économique africaine et c'est la Minute Éco présentée aujourd'hui par...
Alors que Bamako s'apprête à accueillir pour 2 jours le 27e sommet Afrique-France, un forum des jeunes pour promouvoir l'emploi et le développement a eu lieu aujourd'hui au Palais de la Culture. Demain, les organisations patronales africaines rencontreront leur alter ego français, le MEDEF, durant un forum économique. Le nouveau budget 2017 a été voté au Burundi et de nouvelles taxes vont impacter l'ensemble des produits de première nécessité, dont notamment le sucre, l'essence, l'eau et l'électricité. Les citoyens burundais vont être une nouvelle fois affectés après les premières mesures prises au dernier trimestre 2016, après que l'Union européenne eut coupé les vivres en mars l'année dernière. Les perspectives de croissance 2017 de l'Afrique subsaharienne sont meilleures qu'en 2016, même si les cours des matières premières vont demeurer moroses. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire devraient caracoler en tête avec des croissances aux alentours de 7%. Bonne nouvelle, les économies des pays affectés par Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont à nouveau robustes avec plus de 5% de croissance espérée pour 2017.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
Alors, on commence avec l'Algérie. Coup dur avant la CAN 2017.
Taider, qui évolue en club à Arsenal, devait rejoindre Alger ce jeudi pour s'envoler dans l'après-midi à destination du Gabon avec la sélection algérienne qui disputera son premier match dimanche face au Zimbabwe. Taider sera remplacé par Ismaïl Benacer, annonce la Fédération algérienne de football.
Classement FIFA, le top 10 est inchangé.
Un classement toujours dominé par l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne, selon la liste publiée par la FIFA. Le Sénégal, toujours première nation africaine à la 33e place, suivi par la Côte d'Ivoire et l'Égypte.
Allez, Coupe du Monde de handball en France maintenant.
Et ça part mal pour l'Afrique. L'Angola battue 42-25 par la Slovénie. La Macédoine qui affrontera la Tunisie. Et demain, l'Égypte, championne d'Afrique, jouera contre le Qatar dans le groupe D.
Tennis, un nombre record de 4 corruptions a été enregistré en 2016.
Avec notamment 11 joueurs ou officiels poursuivis, annonce de l'unité pour l'intégrité du tennis avant la première levée du Grand Chelem cette année qui débutera lundi à Melbourne. Au total, 11 joueurs ou officiels soit ont été poursuivis, soit ont vu leur appel rejeté, tandis qu'un nombre sans précédent d'alertes ont été émises par les sites de Paris en raison de mises inhabituelles. On rappelle que le 10 janvier, le Roumain Alexandru Daniel Carpen, âgé de 30 ans, a été banni à vie.
Et on finit, Nicolas, avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, le champion en titre Cleveland a concédé une inquiétante deuxième défaite consécutive à Portland, 86-102, tandis que Russell Westbrook continue d'aligner les triples-doubles pour Oklahoma City, vainqueur de Memphis, 103-95.
Merci Nicolas Pinault. Voilà un hymne que vous allez entendre très régulièrement pendant quelques semaines, chers auditeurs, n'est-ce pas, Abdourahmane?
Ouais, l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui démarre dans deux jours. Et vous pourrez retrouver Timothée Donagbaye tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, dans la deuxième partie de cette édition, il nous donnera plus de détails sur l'ambiance et un peu à Libreville et tout ce qui se passe et tous les petits informations dont vous vous raffolez, j'en suis sûr.
Alors sachez également, si vous aimez, si vous êtes un fou du ballon rond, que la CAN, comme le dit Abdourahmane, commence ce samedi et se termine le 5 février. Des équipes préférées, Abdourahmane?
Ben, le Sénégal, bien évidemment.
Au hasard.
Mon pays d'origine. Et j'aime bien toutes. Mais la RDC aussi. Hein.
Ah, bon.
C'est pas pour vous faire plaisir, mais voilà, ils m'ont séduit lors de la dernière CAN.
Allez, on vous laisse déguster cet hymne.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia et Anastasie Toudiech avec vous. Place maintenant au dossier du jour et nous commençons en Afrique du Sud.
Oui, l'ANC au pouvoir élira le successeur du président Jacob Zuma en décembre prochain, mais la bataille semble déjà lancée. Même s'il n'y a pas encore de candidature officiellement annoncée, la déclaration de Jacob Zuma, qui affiche sa préférence pour une femme, vient relancer le débat. On écoute Scott Bob, le chef du service français de La Voix de l'Amérique, qui a aussi été longtemps correspondant en Afrique du Sud.
Oui, cette guerre est lancée depuis pas mal de temps. Vous avez d'un côté les deux grands, disons, noms qu'on voit, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-femme du président Zuma, de la Mimi Khosa Zuma, qui était ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur et puis dernièrement à l'Union africaine. Et comme d'habitude avec l'ANC, c'est celui qui gagne la présidence du parti qui se fait 18 mois à peu près avant l'élection. D'habitude, le candidat présidentiel, et comme l'ANC jusqu'à présent contrôle plus que la majorité des voix dans les élections populaires, est presque sûr de passer.
Dans une interview aux médias sud-africains, M. Zuma a dit sa préférence pour une femme pour le succéder. Certains pensent déjà à son ex-épouse, Nkosazana Dlamini-Zuma. Quelles sont ses chances?
Elles sont assez bonnes parce qu'elle est bien vue, elle est très bien, elle a servi comme ministre. C'est une diplomate expérimentée, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Il faut souligner que dans l'ANC, les femmes de l'ANC ont toujours joué un grand rôle dans le parti. Il y a des dizaines qui ont été ministres, au Parlement plus de 30%. Donc aucune n'a été le président jusqu'à présent, mais ça peut se voir.
Mais que vaut le soutien de Jacob Zuma aujourd'hui? Il a été discrédité au sein même du parti avec tous ces scandales.
Il a des problèmes, surtout avec les accusations de corruption. On peut dire que les longs couteaux sont sortis depuis longtemps, parce qu'on se rappelle que M. Mbeki, l'ex-président, s'est opposé à sa candidature à l'ANC à cause de ces mêmes problèmes. Il a été battu et même démis de ses fonctions 6 mois en avance pour ses efforts. L'ANC est divisé en plusieurs camps et les batailles de succession et autres à l'ANC sont parfois pas très jolies, presque sanglantes même. Donc c'est pas inconnu de voir ça.
Il y a donc Dlamini Zuma, mais il y a aussi Ramaphosa.
Oui, lui était candidat préféré de Nelson Mandela pour la succession après, quand M. Mandela a terminé son seul mandat. Mais les opposants ont préféré Mbeki et M. Mandela a accepté. Alors, sous M. Zuma, Ramaphosa, qui est passé 10 ans dans les affaires et milliardaire maintenant, est venu vice-président et il est très fort et très dynamique. Et on voit beaucoup d'annonces, il monte une campagne de publicité qui est très très forte. Donc il sera quand même une puissance à négocier.
Analyse de Scott Bob, ancien correspondant de VO en Afrique du Sud et chef de service francophone de La Voix de l'Amérique.
Dans Washington Forum ce jeudi, la Côte d'Ivoire, une semaine pleine de rebondissements. Après la fin de la colère des militaires, les chefs des forces de sécurité ont été limogés par décret présidentiel. Alors les militaires sont-ils définitivement rentrés dans les rangs? Guillaume Soro, réélu à la tête de l'Assemblée nationale, et l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, nommé vice-président. La guerre de succession est-elle réglée pour de bon? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Congo-Brazzaville, l'opposant Okombi Salissa, arrêté mardi dernier, est toujours incarcéré à la Direction générale de surveillance du territoire, le service de renseignement congolais. Le vrai motif de son incarcération reste inconnu. La plateforme de l'opposition IDC Frocad dénonce une arrestation arbitraire qui obéit à aucune procédure légale. Eric Manirakiza a joint à Brazzaville la présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, Claudine Mounari.
Le procureur de la République avait parlé d'un mandat d'arrêt le concernant, au motif qu'ils avaient trouvé des armes chez lui, qui pour nous est un montage de la pire espèce, parce que ces armes, personne n'a suivi la perquisition. On les a seulement vues à la télévision quand le procureur les exhibait comme un trophée. Donc, on l'a interpellé dans la nuit du 10 au matin, vers 3h du matin, là où il vivait. Depuis lors, il est détenu à la Direction générale de surveillance du territoire. Voilà. Il est député, il ne devrait pas être arrêté dans ces conditions-là. Je crois que ce monsieur juge une immunité parlementaire et son arrestation ne peut se faire tant qu'il jouit encore de cette immunité parlementaire. Donc, si le procureur avait parlé d'un mandat d'arrêt lancé à son encontre, il devait se trouver aujourd'hui devant le juge d'instruction. Il est aujourd'hui interrogé par le directeur des renseignements généraux. Ce n'est pas normal, tout ça. Ce n'est pas normal.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu le voir physiquement?
Au début, il commence toujours à bien faire les choses. Quand ils ont arrêté, ils ont fait venir un médecin pour examiner. Ils m'ont dit, ah non, il y a un médecin qui est avec lui, On se disait, bon, c'est bien, le médecin, c'est pour voir dans quel état il est rentré. Il faudra qu'on nous le rende dans le même état. Et aujourd'hui, il voit sa famille, la personne de sa famille qui vient lui donner à manger, il voit cette famille-là quand même. Et il y a un avocat aussi qui assiste aux interrogatoires.
Oui,
qu'est-ce qui se passe la nuit, nous, on ne sait rien.
Avant lui, il y a d'autres opposants qui ont été interpellés, qui sont en prison, notamment le général Mokoko. Est-ce que vous auriez de ces nouvelles?
Le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est là depuis plus de 7 mois, qu'on n'arrive pas à juger parce que de ce qu'on dit, le dossier est vide. Parce que chez nous, la règle veut qu'on vous arrête, les preuves à charge sont fabriquées tout au long de la procédure. Là, je suis sûr qu'ils sont en train de fabriquer toutes les preuves à charge pour l'honorable Kombi, comme ils sont en train de le faire avec le général Mokoko, comme ils sont en train de le faire avec tous les opposants politiques, les prisonniers politiques qui sont à la maison d'arrêt, et ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a presque 134 personnes qui sont arrêtées comme ça, qui croupissent à la maison d'arrêt. Pour les uns, ils ne sont pas jugés. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est passé devant le juge, c'est le problème à Kaya. Sinon, pour le reste, Jean-Marie Michel Mokoko est souvent conduit devant le juge d'instruction, mais ça ne donne rien parce que le dossier est vide, monsieur. Voilà. C'est l'organisation criminelle qui est à la tête du pays et qui fait ce qu'elle veut. Voilà, ils ont les armes, donc quand on vous pointe un fusil à la tempe, même vous-même, monsieur, je ne sais pas comment vous réagirez. Mais le commun de mortel, quand c'est comme ça, on se tait parce qu'on n'a qu'une vie, comme on dit.
C'était Claudine Mounari à Brazzaville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, une association qui défend les employés de maison réclame la révision à la baisse des frais d'obtention de leur carte de travail. Les travailleurs doivent en effet débourser entre 7 et 10 000 francs burundais pour être en règle, un montant que l'association juge prohibitif. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
J'ai payé 10 000 francs burundais, mais j'ai aussi ajouté 5 000 francs pour le matelas que nous allons utiliser une fois devenus chômeurs. On doit payer, sinon la police peut nous appréhender dans la rue. Il y a des patrons qui ne veulent pas payer cet argent. J'avais une carte de travailleur, mais qui est aujourd'hui périmée. Je l'ai présentée aux policiers et ils m'ont dit que je dois de l'argent à l'association. Personnellement, je n'ai pas de l'argent pour payer une autre carte. Payer 8 000 francs sur un salaire mensuel de 10 000 ou 20 000 et payer chaque fois 500 francs, c'est beaucoup trop. Souvent, il arrive que le contrat soit rompu et on est obligé de monter à l'intérieur du pays ou rester dans la capitale en attente d'un autre travail. Quand on a un autre boulot, on paye rétrospectivement pour les 5 mois de chômage.
Notre association enseigne comment cuisiner, se comporter positivement dans la société, mais aussi comment se développer financièrement et le respect de la hiérarchie. Nous travaillons très bien avec le gouvernement, mais il y a une association qui recense tous les travailleurs de ménage alors qu'elle n'en a pas les prérogatives. Le recensement des travailleurs de ménage, c'est normal. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les montants demandés. On aurait aimé que le plafond se situe à 2000 francs burundais si on regarde ce que perçoivent les travailleurs domestiques.
La police demande ces cartes des travailleurs pour des raisons d'enquête, pour identification. Il y a des travailleurs de ménage qui ont des cartes et d'autres qui n'en ont pas. Si des policiers font venir des travailleurs de ménage à la zone ou à la commune, c'est tout à fait normal et ça ne devait pas poser de problème.
La CAN 2017, c'est dans deux jours. Le coup d'envoi est donc prévu pour samedi au Gabon. Et sur place, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête, comme l'a constaté l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Le compte à rebours se poursuit ici au Gabon pour le coup d'envoi de la CAN 2017 et la question de la participation populaire continue de se poser, surtout en comparaison avec la CAN 2012 également jouée ici. Ngoulou Auguste, la trentaine, chauffeur de taxi, sait où le problème se situe cette année.
Imaginez-vous quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il peut aller un ventre affamé? Il y a beaucoup de choses au Gabon. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'engouement. Regardez vous-même, regardez la ville. Là, c'est parce que vous êtes au centre-ville. Allez dans la périphérie, vous allez voir, c'est pratiquement rien. Il n'y a rien.
Comment s'est passée la première CAN?
Oui, elle avait beaucoup d'engouement. La première CAN, vraiment, les gens étaient vraiment beaucoup intéressés. Mais par rapport à celle-là, vous-même, vous voyez, elle n'a pas... Bon, on espère que peut-être à partir de demain, tout ce qu'on demande, c'est aux Panthères aussi de donner aussi l'engouement lors du match, faire en sorte que les Gabonais s'intéressent plus encore à la CAN, surtout pour le premier match.
La question de la crise électorale revient également sur les lèvres comme une autre explication du peu d'engouement des Gabonais par rapport à cette CAN. L'opposition et la société civile appellent à boycotter la compétition. Tout cela place une responsabilité particulière sur les épaules des Panthères, l'équipe nationale gabonaise, estime Eric, un électricien rencontré aux abords du stade de l'Amitié de Libreville.
Normalement, le football, c'est un sport qui ramène un peu la joie aux populations. Donc, ils sont vraiment appelés à être déterminés, à remporter, par exemple, les trophées, qui est la coupe de cette CAN pour amener un peu la joie auprès de la population gabonaise.
D'autres Gabonais pensent tout de même que la CAN est une aubaine dont il faut profiter. Nora Michel dirige une école de football de la capitale gabonaise.
Il y a beaucoup de personnes qui vont venir ici au Gabon, qui vont essayer de s'intéresser sur comment on travaille au niveau du foot ici au Gabon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une idée exacte du travail que l'on fait.
Originaire du Cameroun, Michel Ngaping fabrique des meubles en rotin au quartier Glace de Libreville. Il espère attirer de nouveaux clients à la faveur de la CAN 2017.
Ça me permet d'avoir de nouvelles figures qui peuvent découvrir ce que je fais. Parce que la période là, les gens sont un peu, ils ont plus de temps libre. Donc ils peuvent découvrir ce que je fais. Et ça fait une idée de ce que j'apporte aux autres.
Quelques préoccupations subsistent par rapport à cette CAN 2017. Mais une chose est sûre, une fois que la clameur montera des stades, il sera difficile de résister à la magie du ballon rond ici au Gabon. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Michel Joseph et à la console, Rashad Lamar. Présentation, Abdourahman Dia et Anastasie Tudiech.
Et maintenant, la conversation via Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24. Au revoir.